This is the audio recording for a Trademark Clearinghouse from 11 a.m. to 1 p.m. in Hall 1A.
Thank you. Welcome, everyone. My name is Karen Lentz from ICANN. I'd like to welcome everyone to Durban and to the Trademark Clearinghouse session. This is a project that has represented quite a bit of work by the community from the time that it was proposed that we should have a trademark clearinghouse in the new GTLD space to developing what the requirements around these processes should be and building the systems to make it work. So we've got a long time slot today. We have a lot of information to cover. So welcome to everyone. I'd also like to apologize a bit for anybody who, I heard there were some people who showed up at 8 this morning in this room. The session was originally scheduled at 8 a.m. And for only an hour, which we moved earlier this week to try to accommodate the time that we felt it needed to cover all the information that we had to share. So again, apologies to anybody who didn't get that wasn't unaware of the change and showed up here. I would like to introduce the team. We as ICANN are implementing the clearinghouse with some excellent partners, and I'm joined here today on the stage. To my left from ICANN, we have Christine Willett and Gustavo Lozano. To my right, we have Vicky Follens and Jan Korstens from Deloitte. We have Dirk De Bever from IBM, Audrey Ten Bookum from IBM, Jan Janssen from CHIP, and Don Fancher of Deloitte. So look forward to having a discussion with you today. What we intend to cover in this section, I will give an update on the project status and timelines, generally speaking. The Deloitte team will share with you the status of the verification services, which they have up and running. IBM will share with you plans relating to the Sunrise and Claims services, which are in the process of being built currently. And then we have a lot of time expected for questions and answers. So just to review for anyone who might be new to this, what the Trademark Clearinghouse is, it was proposed as a global database to support rights protection, specifically aimed at trademark protection in the new GTLD space. So it is designed as a global repository. It verifies trademark information from rights holders all over the world, maintained in one centralized database. And then that data is used and distributed appropriately to our registries and registrars who are using it during their startup processes to implement the rights protection mechanisms. We get a number of questions here. This graphic is intended to depict the various functions that the clearinghouse is doing, because it does a few different operations and it touches a lot of different parties in the ecosystem. We get a lot of questions around who does what and where should I go for questions about such and such. So we're obviously trying to improve the tools that people have to understand which functions sit where and where to go. But I just wanted to review a little bit here. If you look at the top of the slide here, you have rights holders submitting their trademark data into the clearinghouse, and that happens via the verification service that's currently operated by Deloitte. The database there in the middle is the repository of all of those clearinghouse records. these and going out of the database, the Sunrise and Claim services provide mechanisms to for that data to be obtained by registries and registrars to use as they're starting up their TLDs. So what you see in the middle, that through the three pieces there that are bracketed, is generally what's referred to as the trademark clearinghouse. And as you see, it has a few pieces to it. In terms of the timelines and milestones in the project, this is, I think, in line with what's been shared elsewhere during the week. The verification service went live in March. The database API for the trademark database was completed in April. There's a test environment to be available in July. We'll talk a little bit about that. The Sunrise testing and Sunrise production service are anticipated for August, with the claims planned for September. These are I'll come in on this. These are outside dates. What I'm showing here, and as IBM will share, I think they're aiming to reach some of those milestones sooner. In terms of continuing work that surrounds the basic building of the clearinghouse systems, one of the things that we're working on is development of what, for lack of a better word here, is called the Sunrise. I'm calling the Sunrise Portal. In earlier discussions, there was an expressed a suggestion that it would be helpful to have a location to track all of the Sunrise information for all of the various T's that would be going live, potentially a large number launching within a specific period of time. And so there are processes for registries to submit what their startup information will be, what the dates are, what the relevant policies and requirements for the TLD are, where to go for information, et cetera. So we're working on building that tool. We're also working on, have been working on inclusion of previously abused domain labels in the clearinghouse. This is also sometimes referred to as plus 50. And that is the capability for in a case where there has been a decision that a particular domain name was abusively registered or used against a certain particular trademark. So where that trademark record has already been verified by the clearinghouse, and the labels are noted in the decision, can be associated with that specific trademark, then those labels can also be included, associated with the record for the trademark claims service. We posted implementation notes around how that information is verified, what is submitted, and how you would go about associating some of those labels with an existing clearinghouse record. The Deloitte team is actually going to take you through a lot of that today. I also wanted to address the timing on this. I think there was some confusion about some of the discussion about this. I think the confusion is around details of specifically how the system is going to be implemented. I think that we've made a commitment to have this capacity available before anyone is operating a claims period, and I think we still expect to meet that. Another stream of work that's been taking place is around the RPM, that's Rights Protection Mechanism, RPM requirements. That document is intended to fulfill a reference in the registry agreement, which says, registries are required to implement these required Sunrise and trademark claims processes according to blank. So the RPM requirements are intended to, have a place where those parameters are contained. We talked about this in the previous meeting in Beijing. One of the sort of considerations or principles that has been used in that we used in trying to draft the RPM requirements is that the registry operator should have discretion to implement their startup phases, their startup processes in line with their own business model, their own operational model, so long as there's a minimum set of requirements that are met. And so we published a draft version, our first rendition of that before the meeting. We had some discussion about it during Beijing. We've got quite a number of comments. Once after the meeting, we held a conference call, an open conference call with anybody who was interested, who wanted to provide feedback on that document and ask questions and have a discussion. There were, if I remember correctly, about 70 or 80 people on that call. So it was well participated in. And then there's also been a team of community members, applicants, and others who sort of formed themselves as a team that has been in discussions with ICANN on how these RPM requirements can be revised and clarified. So I'll mention some of the topics of feedback that we've received and discussions that we've had. This is not a complete list, but I want to highlight some of the things that came out of this. And a number of them referred to TLDs that had a particular geographic focus or other cases, sometimes a community focus. So the first bullet there has to do with prioritization among trademarks in the Sunrise. The Sunrise is meant to provide a priority period for rights holders to register domain names in the TLD. There were discussions about if a TLD has a particular local or regional or geographic focus to have the capacity to prioritize in how they allocate among the requests that they get in a Sunrise period. There were...
Il y a eu des exceptions proposées quand il s'agit des priorités pour Sunrise. Par exemple, les exemples donnés dans le cas des TLD géographiques, les institutions publiques ou les services publics qui peut-être ne seraient pas... n'aurait pas de problème au niveau du cyber-squatting. Il y a eu donc des discussions sur les procédures. Il y a eu des exceptions qui ont été faites aux normes que devait avoir Sunrise. Nous avons aussi reçu des suivis du feedback des variants et les registres maintenant et dans le futur d'ailleurs auront des variants IDN, des politiques de variants IDN sur la façon dont ils rassemblent et allouent et bloquent. Donc, la version initiale de ce document dit que les registres puissent continuer à suivre ces politiques en place au niveau de leur processus d'enregistration, mais ils pourraient le faire après la conclusion de Sunrise. Et j'ai regardé les réponses, les feedbacks là-dessus. On a regardé donc les problèmes soulevés, les considérations qui avaient été faites, les révisions permettent les registres de continuer à appliquer les politiques des IDN à travers la période Sunrise, quand il s'agit des allocations, de la façon dont les choses sont allouées. Il y a des requêtes sur lesquelles on s'était mis d'accord au départ. On avait demandé à ce que tout le monde donne 30 jours de notice de délai avant l'enregistrement des IDN. La date qui avait été publiée demandait à ce que cet avertissement, que le nouveau TLD serait délégué à la zone racine. Quelques-unes de ces propositions avaient révisé cela afin pour que ce soit fait à une date plus avancée. Cela donc a été discuté afin de pouvoir équilibrer les périodes de temps afin que ceci puisse être fait de façon plus rapide. Je pense que nous avons une bonne discussion là-dessus. La prochaine chose aussi à propos des périodes de validité. On voulait donc savoir quelle était la longueur de la validité des processus de plainte de Sunrise. Il a fallu prendre en compte les risques dans le processus il pourrait y avoir donc plus de flexibilité pour les registres et les registraires dans leur utilisation de ces processus. Et aussi, il y a eu des commentaires sur les changements d'ordre du jour durant ces périodes de départ et de démarrage, disons. On avait besoin de faire des ajustements quand des choses étaient délayées, quand ils avaient besoin de dates d'extension, pour quelle que soit la raison. Nous, donc, allons réviser cette version préliminaire afin d'apporter plus de flexibilité pour que des changements puissent être adressés alors que le processus continue. Nous avons donc pris tous ces résultats en considération. Et nous essayons de travailler sur une nouvelle version et nous espérons que cela sera prêt pour une période de commentaires publics. Nous avons des problèmes de temps, bien sûr, de délai. C'est notre objectif d'avoir pouvoir publier cela d'ici une semaine. J'espère que vous pouvez faire des commentaires là-dessus. Je vais passer le micro à mon collègue Gustavo qui va parler des tests SMD, des signatures invalides SMD, quelque chose de nouveau cette semaine. Et il va nous parler de cela un petit peu plus. À la base, Gustavo au micro, nous avons travaillé pour générer ces SMD. Certains des registres et d'applicants et demandeurs ont demandé ces SMD pour qu'ils puissent faire leur test d'intégration. C'est très important de mentionner que ces documents ont été générés utilisant les mêmes infrastructures que nous avons utilisées durant l'introduction. Nous avons quatre types de SMD, ceux qui sont actifs, reboot, signés, par des validateurs DMD et SMD avec des signatures valides. Nous avons fourni pour les actifs et pour les deux premiers dans différents niveaux. Ceci est listé dans la présentation. Nous avons aussi des labels et IDN dans les SMD. Nous avons cette information qui vous est disponible. Vous pouvez utiliser ce document. une liste de révocation de certificats, la liste de révocation aussi des SMD et une liste que vous pouvez télécharger de tous ces SMD. Nous travaillons aussi sur une manière de fournir une interface ou un livret pour que vous puissiez tester le pilote vous-même. Ceci est très important, cela vous aidera à intégrer vos systèmes pour Sunrise. Si vous avez quelques questions, vous pouvez m'envoyer un email ou un email à la liste d'abonnement et nous vous aiderons donc avec toutes vos questions. Merci Gustavo. Pour ceux qui ne savent pas, abandon, le mot, c'est la liste des noms enregistrés. C'est les registres qui téléchargent dans la base de données pour qu'on puisse leur envoyer des listes. Je vais passer à Jan Christen et nous passerons aux mises à jour. Merci Karen. Bonjour. De la part de l'équipe Clearing House, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette séance. Je voudrais remercier beaucoup d'entre vous qui ont travaillé avec vous depuis quelques mois, nous ont donné des informations et des suggestions. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Disons, durant les 4-5 derniers mois, nous avons reçu beaucoup de coopération, beaucoup de suivi d'informations de beaucoup de personnes différentes. Par exemple, comment nous allons envoyer les EPI et les sessions que nous allons organiser. Nous avons eu ces sessions qui ont été très utiles. Nous avons écouté vos informations sur ce que nous pourrions faire mieux. D'ailleurs, j'espère que nous allons continuer à travailler comme ça, aussi de façon aussi ouverte, et de mettre en place des choses qui seront basées sur les informations reçues par la communauté. Et je vais passer le micro à Vicky pour que la puisse présenter la présentation. Bonjour tout le monde. Nous avons deux ou trois choses que nous voulons discuter avec vous lorsqu'il s'agit de la Clearing House des marques déposées. Nous voudrions parler du processus de vérification. Nous voulons décrire un peu décrire les erreurs que nous avons reçues pour nous assurer que ces erreurs qu'il n'y ait plus de ces erreurs. Nous voulons discuter cela, les labels d'abus, les 50 labels d'abus, ce qu'il y a de nouveau à la Clearing House, ce qui va arriver dans le futur, dans l'avenir, le service client et les certaines de des statistiques. Donc, quand il s'agit du processus de vérification, c'est important de savoir que nous avons un processus qu'on appelle les 4 yeux. Alors, c'est un processus manuel, avec deux groupes d'agents de vérification. Le groupe numéro 1 regarde les informations des marques déposées. Le groupe 2 aussi. Ils se mettent d'accord, ils prennent une décision, que ce soit correcte ou incorrecte, et ensuite, ils obtiennent un statut ou pas. Quand les deux premiers groupes ne sont pas d'accord, pour une raison ou une autre, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas consistant, pas régulier, cela passe au groupe assurance. Confirmité. Et ensuite, il y a une vérification et une décision est prise vis-à-vis de cette information. C'est la même chose pour la preuve d'utilisation. On y regarde à deux fois. S'il y a une information qui n'est pas régulière, nous allons donc ce qui s'appelle l'assurance qualité, le groupe assurance qualité. Ensuite, nous vérifions que la marque déposée est bien enregistrée, que les informations sont correctes et complètes. Et ensuite, nous regardons si cela rencontre toutes les exigences demandées par la marque déposée, les statuts de marque déposée. Nos agents de vérification se trouvent à travers le monde. Ce n'est pas seulement, par exemple, en Belgique où nous avons ces services. Nous avons des ressources à travers le monde, même si en Belgique, en fait, chez nous, en Belgique, les ressources ne sont pas seulement belges. Nous avons des ressources en interne et nous travaillons avec des experts locaux, des marques déposées à travers le monde. Nous pouvons ainsi répondre aux questions et faire des vérifications. Et aussi, dit un autre membre du panel, nous présenterons cela plus tard. En ce moment, 45% des marques déposées qui ont, sont passées à travers le clearinghouse sont des États-Unis d'Amérique et un autre 35% viennent primordialement de l'Europe. Donc en ce moment, la grosse partie des marques déposées viennent d'Amérique du Nord ou d'Europe. Donc, comme Vicky l'a dit, c'est là où vous allez voir, c'est là où se trouvent les systèmes de vérification, bien sûr. Nous avons, bien sûr, des marques déposées de 60 pays en ce moment. Nous sommes inclus dans plein de, dans tous les membres et nous avons des ressources qui incluent toutes les langues du monde pour pouvoir faire ces dites vérifications. Tout à l'heure, j'ai dit que les rapports, s'il y a un problème avec la marque déposée, donc s'il y a des inconsistances, à ce moment-là, la marque déposée reçoit un statut incorrect. Et là, un processus commence. Et là, vous pouvez corriger votre marque déposée. Nous ne corrigeons pas les rapports, les records, les enregistrements de trademark. C'est à votre responsabilité de corriger les informations. Nous vous fournissons donc les informations du pourquoi votre record n'a pas pu être vérifié. Le processus de recorrection dure 20 jours. Normalement, vous avez 20 jours pour recorriger votre marque déposée, vos renseignements. Nous n'avons pas mis cela en place parce que nous travaillons avec vous pour essayer de vous assister pour vérifier ces renseignements. Nous savons que souvent, par exemple, l'été, les gens sont en vacances. Il y a des gens, des agents qui travaillent pour les marques déposées ne peuvent pas être contactés. On ne peut pas avoir les informations correctes. C'est pour ça que nous n'avons pas initié ce délai de 20 jours, que ces 20 jours commencent automatiquement. Nous allons commencer cela à la fin de l'été. Donc, si vous n'avez pas recorrigé après ça pendant vos 20 jours, ce sera invalide. Vous devrez resoumettre pour pouvoir vérifier les renseignements de marque déposée. La raison pour laquelle nous avons ce processus, je vais en parler rapidement. Les raisons pour laquelle ce processus est initié, c'est parce que le nom de la marque n'est pas correct, le numéro d'enregistrement n'a pas été donné de bonne façon, la juridiction est correcte. Le nom de la personne qui en est propriétaire est correct ou quelque chose d'un nom n'a pas été fourni. Si votre nom a changé d'une raison ou d'une autre, vous n'avez pas pu envoyer un avertissement au bureau des marques déposées, vous devez envoyer un document pour montrer ce changement de nom. Si l'adresse n'est pas correcte, par exemple, cela pourrait aussi que votre adresse a changé, que vous n'avez pas averti le bureau, c'est bon, mais vous nous devez nous envoyer les informations de preuve que pour qu'on puisse établir le fait que votre adresse a changé. La date d'enregistrement, c'est aussi une raison pour laquelle le processus de vérification est initié, la description des services, des biens, une description de ces biens ou de ces services. Ce sont des raisons pour lesquelles que souvent le processus de vérification doit être initié. Si un des documents n'est pas signé ou qu'il n'y a pas le certificat qui est joint, on passera cela en plus de détails. On vous donnera un peu une idée, on vous donnera des pourcentages pour... Et on vous expliquera pourquoi vous recevez cette note, cet avertissement de détails incorrects. 67% sont en général incorrects à cause du nom. Le nom de la marque déposée a été mal épelé ou il y a une erreur de frappe. Il faut que ce soit exactement correspondant avec ce qu'il y a sur le certificat. Nous voyons souvent qu'il y a des personnes ou des agents qui font des fautes de frappe, qui n'épellent pas leur marque déposée de bonne manière. Si vous ajoutez une lettre, par exemple, ou si vous avez enregistré, par exemple, s'il y a un espace dans votre mot que vous avez enregistré avec un espace et que vous ne donnez pas un espace, et si vous avez, par exemple, TMX ou TM espace X, ce n'est pas la même chose. L'exception, dans les statuts, nous disons qu'il n'y a aucun marque déposée avec un point. n'est autorisé. Nous avons vu que cela fournit des problèmes, des confusions avec les agents et les détenteurs de marques déposées. Nous allons essayer d'être un peu plus faciles avec ces détails plus spécifiques pour pouvoir laisser un peu de jeu pour que les marques déposées puissent inclure un point. Nous essayons de trouver des nouvelles, de mettre en place des nouvelles données, et dès que ce sera approuvé, nous pourrons mettre ça dans les statuts de marque déposée. Il y a des implications techniques afin de faire cela, bien sûr, à notre avis, parce que les points ne sont pas autorisés. Il n'est pas donc possible de remplacer le point avec un tiret. Donc, dès que nous allons pouvoir clarifier cela, si nous pouvions remplacer le point avec un tiret, surtout pour toutes les extensions des nouveaux GTLD, ne seront pas acceptées dans la marque déposée. Cela reste la même chose. Nous avons des marques déposées dans la clearinghouse en ce moment qui ont été marqués comme invalides à cause de ce règlement du point. Nous contacterons ces gens-là, ces agents-là, ces détenteurs pour recorriger ou pour rousse pour qu'ils puissent resoumettre leur marque déposée dès que nous aurons les statuts pour voir ce qui sera accepté, ce qui ne sera pas accepté. Quand il s'agit de la date d'enregistrement, encore une fois, 9% des renseignements que nous recevons ne passent pas parce que la date d'enregistrement n'a pas été bien notée. Dans la plupart du temps, la date d'application, la date de demande est inclue. Nous demandons à ce qu'il y ait une date de demande. Ce n'est pas obligatoire, mais nous aimerions qu'elle soit là. La date d'enregistrement, par contre, est obligatoire. Donc, les gens, en général, mélangent les deux dates, la date de demande et la date d'enregistrement. Le nom du détenteur. C'est peut-être surprenant, mais 20% des renseignements que nous recevons ont des problèmes à cause du nom du détenteur qui n'a pas été bien complété. Soit ce nom est correct, mais la personne n'est pas propriétaire. Donc il y a un champ, un endroit dans l'interface où vous pouvez choisir si vous êtes le détenteur ou le licencié. Donc souvent, l'un n'est pas forcément l'autre. Les gens oublient de sélectionner le fait qu'ils ne sont pas détenteurs, mais juste licenciés. Ils mettent qu'ils sont détenteurs alors que ce n'est pas correct. Donc ce sont certaines des raisons pour lesquelles formulaires sont renvoyés pour que les informations soient rentrées correctement. 22% ne passent pas parce que l'adresse n'était pas notée correctement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous comprenons que les compagnies changent, les entreprises changent d'adresse. Et souvent, cela prend du temps de faire passer cela au bureau des marques déposées. Nous savons que les mises à jour du bureau ne sont pas forcément faites en temps et heure. Mais dans ces cas-là, s'il vous plaît, donnez-nous des évidences en nous disant que votre entreprise a déménagé. Nous comprenons cela. Nous acceptons ces raisons, nous acceptons ces évidences documentaires. Il y a aussi des cas, surtout avec les données en ligne. Les adresses des détenteurs n'est pas toujours mentionnée sur le certificat de marque déposée. Nous demandons à ce que l'adresse doit être soumise au clearinghouse. Il nous faut un formulaire d'entreprise avec l'adresse. Bien sûr, le nom du détenteur doit être noté. Aussi, un imprimé de la page du site web de la compagnie peut être fourni. La description des biens et des services. Nous avons deux champs. Nous avons la description des biens et des services qui constitue une classification avec nous passons beaucoup de temps sur la révision de ces points-là, et nous devons avoir aussi une description de ces bons biens et services. La description est ce qu'il y a sur votre certificat de marque déposée. Vous avez besoin de décrire, vous devez sélectionner le nombre, le chiffre qui se trouve sur vos sur vos formulaires. En général, nous avons des erreurs à 8%, un taux de 8%. La plupart du temps, les chiffres qui sont sélectionnés lorsque les marques déposées sont enregistrées dans des différentes juridictions. Nous avons des champs sur le formulaire. Et si les classifications n'est pas sélectionnées proprement pour les utilisateurs de API, la valeur est 46. Donc, si les valeurs ne sont pas bien sélectionnées sur le formulaire, cela pose un problème. Il faut aller sur le site et voir. Vous pouvez. L'information est fournie sur le site, mais la plupart du temps, les gens ne lisent pas cette information. Les descriptions en détail des biens et des services, nous avons des erreurs à peu près à 14%. C'est quand même beaucoup. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a sur le certificat et enregistrer cela dans les données. La plupart du temps, il y a donc 14% d'erreurs. Pour les US, nous savons que sur les certificats des États-Unis, les biens et les services sont fournis entre parenthèses. Et toute cette description, cela veut dire, quand c'est entre parenthèses, ça veut dire que c'est bien, la protection ne correspond pas. Et les gens copient cette description et rentrent ces informations sur le formulaire. Et cela envoie la mauvaise information. Et donc, si... le TM est annulé, dès que l'information entre parenthèses, le TM n'est plus protégé. En anglais, nous vous demandons de fournir des descriptions des biens, le langage de la description sur le certificat doit correspondre. Par exemple, si les informations viennent d'espagnol, la description est faite en espagnol. Donc, vous devez la fournir en espagnol. Si vous voulez la fournir en anglais, ce n'est pas un problème, mais nous avons besoin d'une certification, d'une traduction certifiée de cette traduction. La preuve d'utilisation, nous voyons d'échantillons et déclarations à 50%. Il y a des mauvaises informations. Nous savons que cela est complètement nouveau. La preuve de l'utilisation n'était pas toujours une requête dans le système précédent. Donc, cela, ce sont des nouvelles données, de nouvelles informations. Nous savons que cela correspond à un ratio très élevé, donc à 50%. Nous avons une brochure sur le site qui explique ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, comment soumettre la déclaration. Et nous essayons de corriger ces erreurs autant que possible. Nous essayons d'assister les clients avec des webinaires en leur fournissant plus d'informations sur la preuve d'utilisation. Quand nous parlons de cela, c'est que le nom sur la marque déposée tel qu'il apparaît sur le certificat doit être la preuve d'utilisation. Nous voyons souvent, par exemple, il y a des exemples où les marques déposées qui sont enregistrés avec un accent, mais la preuve d'utilisation qu'ils ont fournie est sans un accent. Cela ne qualifie pas, cela ne montre pas que vous utilisez la marque actuelle. Ça doit correspondre exactement avec ce qui se trouve sur votre certificat. Nous voyons aussi des exemplaires des factures qui ne montrent pas que vous utilisez votre marque déposée. Les factures, vous envoyez une facture à des clients, mais cela ne fournit pas votre marque déposée, ce n'est pas une preuve. Nous avons aussi des exemples, par exemple avec les URL où sur le site cela mentionne seulement le URL et la marque déposée, mais il n'y a rien qui démontre la marque déposée sur le site. Cela ne qualifie pas pour la preuve d'utilisation. Cela qualifie si vous pouvez démontrer sur votre site que vous utilisez votre marque déposée. Souvent, dans certains cas, quand on a des doutes, nous pouvons aller nous-mêmes sur le site et voir si nous pouvons trouver des façons, plus de façons avec lesquelles vous pouvez utiliser votre marque déposée. Et si nous avons des hésitations, nous vous demandons de nous envoyer plus d'exemplaires d'utilisation, de preuves d'utilisation. Pour les matheux, dit un autre membre du panel, si vous voyez tous ces pourcentages, vous savez que ces chiffres sont plus à plus, quand vous les ajoutez, sont à plus de 100%. C'est parce que nous avons plus de fautes. Donc ça ne s'ajoute pas, tous ces pourcentages n'arrivent pas à 100%. C'est parce que nous avons plus d'une faute de chaque. Donc encore une fois, les erreurs, la déclaration de preuve d'utilisation, c'est nouveau. Nous comprenons que c'est un obstacle. Une petite mise à jour, le nom de la personne qui soumet doit être le nom du détenteur. Le nom du détenteur tel qu'il est sur les raccords, sur les certificats. Tout cela doit être signé à main. Et daté. Vous utilisez les déclarations standards de TMCH. Souvent, on nous donne des déclarations qui ne qualifient pas. Nous avons donné cette information. C'est un formulaire que vous pouvez télécharger. Vous devez le signer, le dater et le renvoyer. En général, c'est assez facile d'utilisation.
Et ensuite, les copies des certificats de marque de commerce ne sont pas fournies. C'est la dernière erreur de commentaire que nous voyons. Donc, nous avons beaucoup d'erreurs communes. Sur notre site web, il y a une liste de tous les pays, de toutes les juridictions. En fait, c'est une base de données en ligne qui est disponible. Nous avons également tous les pays où il n'y a pas de base de données officielle qui est disponible. Nous vous suggérons de soumettre les certificats de marque de commerce. Cependant, lorsque vous avez un agent, vous soumettez en regardant la liste. Donc, les informations sont disponibles, elles sont faciles à trouver dans notre section assistance ou help. Téléchargez la liste de la base de données et vous savez automatiquement si oui ou non vous devez soumettre un certificat de marque de commerce. Si c'est le cas, à ce moment-là, il faut le faire. Sinon, nous allons à nouveau vous demander de soumettre une copie du certificat de marque de commerce. Vicky, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. Si vous prenez en compte ces pourcentages, nous ne sommes pas contents par rapport à ça. Ils sont beaucoup trop élevés que ce que nous avions de par le passé. Nous avons fait un certain nombre de sommaires de lieux où nous avons réussi à obtenir 10%. C'est pour cela que nous avons mis en place ce processus. Nous avons fait ceci de multiples fois pour vous aider et il semblerait que pour la plupart d'entre vous, cela vous aide parce que le taux commence à descendre. Mais une petite remarque, plus nous arrivons au premier sommaire, plus il devient difficile d'arriver à des difficultés. Nous souhaitions vous aider parce que la qualité est importante. Plus il y a de qualité, plus le nombre de marques qui sera protégé sera élevé, mais le volume devient de plus en plus élevé, donc de plus en plus, il devient difficile de vous aider de multiples fois avec des enregistrements qui ne sont pas nécessairement disponibles. Ensuite, sujet suivant, il y a eu beaucoup de confusion pour beaucoup parce que la clearinghouse pour les marques de commerce n'accepte pas les marques de commerce en alphabet non latin. Alors, ce n'est pas vrai. Nous acceptons les IDN, les marques de commerce en alphabet non latin. Donc, quel que soit le pays, quel que soit l'alphabet, nous acceptons tout cela. Actuellement, nous avons environ 150 marques de commerce en alphabet non latin. Nous savons que ce nombre est très bas. Et ceci, à notre avis, est causé par le fait que les rumeurs dont je viens de parler ont été répandues un peu partout. Et nous travaillons avec nos IPR, nos bureaux IPR et nos agents pour que les informations soient disséminées, les bonnes informations, surtout dans la région de la Chine, du Moyen-Orient, également pour que les gens sachent que nous acceptons les alphabets non latins, mais nous n'avons pas de problème donc pour les accepter. Et nous pouvons les vérifier, ces marques de commerce. Nous avons également compris, du fait de ce qui nous a été dit par certains agents, qu'ils ont parfois des problèmes pour mettre la marque de commerce dans un label A. Donc, vous savez qu'il y a une question d'interface. Les labels ou les étiquettes qui sont générés sur la base de vos marques automatiquement. Vous avez des agents qui travaillent par le API. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Et donc, les agents, parfois, ont du mal à tout rassembler, à tout mettre en place. Et donc, vendredi dernier, nous avons mis un URL. Nous avons produit un URL où vous pouvez mettre votre marque de commerce dans un IDN. En termes de format, vous avez donc l'Unicode qui vous permet de soumettre ceci à la Clearinghouse. Notre site web n'a pas encore été mis à jour pour fournir cette information, mais c'est quelque chose qui va se produire rapidement. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a été lancé vendredi dernier et nous sommes actuellement ici. Donc, nous n'avons pas eu le temps de faire cette mise à jour sur notre site web. Ensuite, sujet suivant, les 50 étiquettes à but. Donc, il y a beaucoup de noms que je pourrais vous donner par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, quel que soit le nom, je peux vous fournir des informations par rapport à ce qui se passe. Alors, tout d'abord, tout à but de label ne peut être ajouté qu'à un enregistrement de marque de commerce qui a été vérifié. Pourquoi ? Eh bien, parce que les labels sont uniquement considérés pour la certification des noms de marque de commerce. Donc, nous ne pouvons pas encourager la participation lorsque nous sommes encore en cours de vérification. Deuxièmement, toutes les marques de commerce qui sont actuellement dans la Clearinghouse peuvent permettre donc de télécharger les informations nécessaires et télécharger les labels vérifiés. Il y a un maximum de 50 labels par marque de commerce, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut télécharger qu'un KRP ou un cas ou une affaire légale. On peut avoir un certain nombre de cas ou d'affaires qui peuvent être téléchargées. Donc, vous pouvez tout à fait avoir 25 affaires ou cas avec deux affaires contre ce même label. Pour vous, les cas UDRP sont quelque chose qui doit être approuvé par le fournisseur de services. Et pour les affaires légales, cela dépend des affaires qui sont au niveau national, au niveau des tribunaux nationaux. Donc, nous avons cherché à simplifier au maximum le système afin de limiter les informations dont vous avez besoin, également pour limiter le taux d'erreur qui risque de se produire sur la base de notre expérience passée. Donc, pour les affaires UDRP, ce que vous devez fournir pour la Clearinghouse, le nom du fournisseur, le nombre d'affaires UDRP, la langue et les labels. Pour ce qui est de la langue, ça, c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce que nous comprenons que certains des fournisseurs UDRP vont forcément fournir leurs affaires dans un autre alphabet ou dans une autre langue. Et nous souhaitons permettre la vérification afin que cela corresponde à la bonne langue. Dans le cas de la vérification, afin de ne pas perdre de temps, d'abord vérifier le document et puis s'assurer où est-ce qu'on va envoyer les informations. Donc voilà pourquoi nous avons ce point de la langue. Alors pour les affaires juridiques. En principe, il n'y a pas de base de données qui soit disponible en ligne. Donc, le nom du tribunal doit être fourni et la décision de la cour, la langue, même chose que précédemment. Mais là, on vous demande une copie de l'affaire juridique ainsi que le label pour donc obtenir cette vérification. Alors, comment fonctionne le processus de vérification ? Bien sûr, il y a la vérification générale. Nous allons vérifier que vos affaires UDRP sont bien enregistrées, que le nom est correct, que l'enregistrement est correct. Lorsqu'on vérifie, alors on vérifie la décision de la Cour, on vérifie pour s'assurer que le nom de la marque et la décision correspondent l'un par rapport à l'autre. Nous vérifions également le numéro de référence, le numéro d'enregistrement et la décision par rapport à ce qui a été fourni dans l'enregistrement. Et nous vérifions le ressort ou la juridiction et le pays. Et là aussi, il doit y avoir correspondance. Ces deux choses doivent pouvoir correspondre pour avoir... et aussi que le label soit mentionné. Donc, ça, c'est quelque chose qui se produira uniquement une fois. Donc, c'est une vérification unique. Une fois que la vérification est effectuée, c'est bon. Alors, en termes de prix, nous avons un petit peu de difficultés pour identifier quel est le bon prix, le bon coût pour ça. Il faut faire une vérification. Dans l'affaire UDRP, en principe, le prix ne change plus. Donc, il y a une évaluation à faire une fois par an. Nous avons donc suggéré avoir une validation d'une seule fois, un prix d'une seule fois pour l'affaire UDRP, donc de 50 à 75 dollars américains. Et ensuite, après la validation, la vérification reste active pendant un temps indéfini. Alors, pour les affaires UDRP, il peut y avoir plusieurs labels. Et pour ces labels, vous avez donc le service sur un an, vous avez le service de réclamation, de revendication. Donc, en plus de cette validation indéfinie, de temps indéfini, donc un coût par label par an d'un dollar. Pour les affaires juridique. Donc là, il y a beaucoup plus de choses à vérifier. Donc on pense à un coût de 150 à 200 dollars. Alors ça, c'est quelque chose que nous proposons. Ce n'est pas quelque chose qui est encore défini de manière stricte. Donc nous sommes tout à fait ouverts à discuter. On ne va pas non plus passer des heures là-dessus. Mais bien sûr, donnez-nous votre avis. Donnez-nous une idée de ce que vous pensez, est-ce que c'est logique ou est-ce que ça ne l'est pas, et on va voir comment nous pouvons ajuster un petit peu les choses. Comme vous le voyez, la plupart des prix sont liés à la quantité de travail nécessaire pour faire la validation, mais nous sommes prêts à discuter. Je vais accélérer un petit peu pour que j'ai suffisamment de temps pour passer par toutes les diapositives. Mais pour vous donner une petite mise à jour, il y a beaucoup de choses que nous travaillons. Ce qui a été mis en application récemment, c'est donc un environnement de test API total pour les agents. Il y a des notifications qui sont envoyées à chaque fois hebdomadairement. À chaque fois, il y a changement de statut. Nous avons des fichiers SMD test qui sont disponibles et nous avons également des webinaires mensuels, des bulletins qui sont envoyés et des animations TMCH qui sont disponibles maintenant en plus de 10 langues. Nous avons d'autres choses qui seront téléchargées dans le cadre d'un document séparé. Donc, si vous pouvez en fait télécharger vos documents et effectuer tout changement. Le fichier SMD sera disponible à la fin de juillet. Nous allons mettre en application 50 étiquettes donc soumises à un abus et nous avons des consignes qui seront traduites en différentes langues. Nous avons encore des choses à faire. Alors, pour ce qui est du soutien à la clientèle, si vous le pouvez, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est très facile d'accès. Pour ceux qui ne sont pas enregistrés, vous pouvez aller poser des questions d'ordre général sur notre site web. Alors, un point important avant de passer aux statistiques. Donc, n'hésitez pas, l'inscription précoce est déjà commencée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez avoir des réductions. Alors, on souhaitait terminer notre partie de la présentation avec quelques chiffres pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe actuellement. chez Clearinghouse. Le nombre des détenteurs que nous avons est donc de 800. Nous avons 132 agents. Nous avons 5900 enregistrements qui représentent 62 juridictions. Et ces 5900 enregistrements représentent 11700 labels ou marques. Et j'imagine que vous savez qu'il y a des points spécifiques pour les caractères spécifiques pour les traduire. Et voilà la raison pour laquelle vous avez davantage de labels que vous n'avez d'enregistrements pour l'instant. Ensuite, vous avez les trois principaux domaines. Donc, pour l'instant, nous avons plus de 5000 enregistrements. Donc, cela vous donne une idée de où nous en sommes. Donc, d'abord, nous avons les États-Unis, ensuite la France et ensuite la Grande-Bretagne. Puis la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède, le Canada, le Japon et l'Australie. Alors, on passe à la diapositive suivante. Vous voyez qu'il y a un nombre très important de pays qui se sont déjà impliqués là-dedans. Ensuite, le site web pour se connecter avec nous. Le site web, je crois que vous le savez tous, vous qui êtes présents dans la salle, vous le connaissez tous. Nous sommes présents également sur Twitter. Donc, c'est @tmcinfo avec toutes les mises à jour. Il y a des questions d'ordre général que nous recevons par notre service de soutien à la clientèle, d'assistance à la clientèle. Et n'hésitez pas, si vous avez davantage de questions, à venir nous voir à notre stand dans le couloir. N'hésitez pas. Merci Yana et Vicky. Don, je vais passer... et Don, je te remercie également et je passe la parole à la personne suivante. Je m'appelle Dele Kelly d'IBM. Donc, pour ce qui est de la revendication Sunrise, on ne va pas passer énormément de temps sur cette image. Je crois qu'on a déjà parlé au début de la présentation. Donc, vous avez donc la base de données, la revendication et pas besoin de rentrer dans le vif du sujet. Ce que vous avez ici, c'est un dessin qui vous a été montré à Pékin avec un centre de données central. Est-ce qu'on pourrait passer? Voilà. Donc, vous avez un centre qui se trouve au Luxembourg. Nous avons également deux autres centres. Nous n'avions pas les noms auparavant, mais maintenant, nous avons donc le Singapour et Denver. Et cette conception permet qu'il y ait une performance maximale entre les communautés. En Pologne, vous avez l'étoile orange. Vous avez le service du point de vue technologique. Donc, vous avez la technologie qui est basée en Pologne. Ce que nous avons de prévu pour l'ordre du jour d'aujourd'hui, je vais rapidement parler des services de revendication de Sunrise. Et ensuite, Yann vous parlera de l'environnement Sunrise et du processus de revendication. Ensuite, nous parlerons des documents de soutien à la clientèle et de la communication suite à la conférence de Durban. Donc, pour ce qui est du statut et du calendrier, Sunrise, donc Go Live le 9 août 2013. Il y aura des rencontres précédant celle-ci. Donc, la date du 9 août est confirmée. Donc, encore quelques semaines de patience. Pour ce qui est de l'environnement de test, il sera disponible. Donc, c'est le test opérationnel. La plateforme pour les services Sunrise. Donc, le test sera disponible le 31 juillet. Les revendications seront en ligne le 9 septembre et l'environnement de test pour les revendications seront disponibles au 21 août. Donc, où en sommes-nous actuellement? Donc, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Le sandbox est opérationnel. La production Sunrise et la plateforme d'évaluation et de test opérationnel ont commencé des tests de sécurité et de performance. Donc, nous avons déjà testé l'environnement. En tout cas, nous avons commencé et les tests de plateforme des revendications sont sur le point de commencer. Donc, encore une fois, nous avons présenté ces diapositives à Pékin, mais je vais vous donner un petit peu une mise à jour de façon un petit peu modifiée par rapport à ce que nous, où nous en sommes aujourd'hui. Donc, nous avons l'infrastructure, l'installation, la base de données centrale qui est donc située au Luxembourg. Ceci est finalisé. Ensuite, pour ce qui est du développement de l'application et du test pour Sunride, vous voyez que les deux lancements d'applications ont été un petit peu plus élargis parce qu'il y a eu des changements aux exigences. Et au début du mois de juillet, donc nous sommes passés au lancement de l'application numéro 2. Donc ça, c'était au début du mois. Et donc, il y a toujours le test de sécurité et de performance du point de vue opérationnel et de l'évaluation de l'environnement de test. Nous avons discuté du fait que le test des registres bêta commencera au début du mois d'août. Donc, en vert, vous avez le lancement du Sunrise en ligne avec l'étoile. Encore une fois, ce sera à la fin de la période. Donc, je vous l'ai déjà dit, au 9 août. Pour les services de revendication, donc encore une fois, notre test est en cours pour l'instant. Le test de performance et de sécurité commencera au début du mois d'août et les registraires, le test des registraires bêta commenceront en août. Je crois le 21 août. Et en attendant, et Avril en parlera, avant d'y arriver, nous allons avoir la sandbox qui sera en place. Au fur et à mesure que nous mettrons en place les tests opérationnels, et donc, il y aura une redondance à un moment. Le lancement en live dont nous avons parlé à Pékin donc aura lieu au 9 septembre. Merci. Je m'appelle Adi Tobogan et je voulais vous parler de l'environnement Sandbox. On en a déjà parlé un petit peu. Et actuellement, cet environnement que nous avons mis en place est en phase de test préliminaire. Et donc le système fonctionne. Vous pouvez y avoir accès sur l'URL que nous avons. Nous communiquerons la connectivité par le biais de Gustavo et donc n'hésitez pas à le contacter pour obtenir l'accès. L'environnement Sandbox sera disponible jusqu'à ce que la plateforme de test opérationnel soit en live, soit opérationnelle. Et donc, ce sera avant le lancement de Sunrise. Donc, vous pourrez utiliser cette plateforme NTNI. Et l'environnement Sandbox vous donnera une possibilité relativement illimitée. Comme Gustavo vous l'a expliqué, vous aurez tout le feedback dont vous aurez besoin, auquel vous vous attendez. Le système vous répondra s'il y a un problème. Je m'excuse, mais je vois que les utilisateurs à distance ne vous entendent pas bien. Est-ce que vous pourriez parler plus près du micro, s'il vous plaît ? J'espère que c'est mieux, que vous m'entendez mieux. Donc, la documentation sera disponible, elle vous sera distribuée. Donc, vous aurez les informations pour vous connecter, pour accéder au système. Donc, voilà pour ce qui est du système de revendication de Sunrise. D'accord, merci. Alors, Yan Yanse, maintenant, au micro. J'aimerais rapidement passer en revue le processus de revendication de Sunrise, parce qu'il y a eu énormément de questions là-dessus. Je reviens en arrière à il y a un an, Deloitte a demandé aux registraires et aux registres d'avoir une petite conférence sur les réclamations relatives à Sunrise. Nous avons utilisé le modèle de consensus et il y a eu un petit peu de discussion entre ICANN et la communauté. Et Gustavo, merci. Et il nous a expliqué un petit peu la spécification et le flow dans Sunrise. Donc ça, c'est un document sur le site IETF et vous pouvez donc le télécharger pour tous les registres et les registraires qui sont impliqués. Je vous recommande de le lire parce que tous les petits détails nécessaires dont vous avez besoin pour mettre en application ce système sont disponibles. Donc, je vais simplement vous présenter une introduction, mais j'aime quand même expliquer au moins les bases. Alors, on va regarder un petit peu le processus Sunrise pour commencer. Le processus Sunrise commence avec les marques qui ont été enregistrées, qui ont été vérifiées par Deloitte, comme nous l'avons entendu tout à l'heure par le biais de Vicky. Donc, vous avez le fichier de données, le fichier SMD. Ce fichier SMD est introduit par le registraire pour le registre. Donc, le registraire peut vérifier le contenu de ce fichier SMD. Donc, il est structuré de manière à ce que tout le contenu peut être vérifié hors ligne. Donc, il est tout à fait possible à n'importe quel moment pour le registraire de vérifier que le contenu soit juste et valide. Et à ce moment-là, il peut l'envoyer au registre. Le registre prendra ce fichier SMD et vérifiera différentes choses pour voir s'il peut s'inscrire ou s'enregistrer pour ce domaine tel qu'il lui a été fourni. Il va vérifier le label. Est-ce qu'il existe dans ce SMD? Est-ce que c'est un fichier valide? Est-ce que la signature qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle est dans l'ordre? Est-ce qu'elle correspond bien? Est-ce que ce fichier SMD est toujours valide en termes de temps? Donc, il y a des normes de temps. Et surtout, est-ce que SMD n'est pas sur un fichier de révocation? Et cette liste de révocation est disponible du point de vue des tests. Et donc, en tant que registre, vous pouvez mettre en application le processus Sunrise jusqu'à ce point. Donc, vous avez des fichiers SMD qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser pour votre logiciel. Vous avez une liste de révocation. Vous pouvez donc vérifier ces fichiers SMD sur ce point-là. Et donc, vous avez 4 tests là qui sont disponibles, qui permettent donc de vérifier le label. Et à ce moment-là, il faut que Clearinghouse soit notifié. Oui, ce label a été enregistré. Donc, ce fichier revient à TMCH qui, au bout d'un certain temps, enverra une notification au reste des parties. Donc, voilà un petit peu le processus, comment il fonctionne. Je sais que cette diapositive a été montrée assez souvent, mais je voulais quand même la présenter rapidement. Sunrise est un petit peu plus compliqué. Attendez, les revendications. Donc, les revendications sont un petit peu plus compliquées parce que on monte et on descend dans le graphique. Donc, un registrant va enregistrer un domaine, il va voir son registraire, il dit « je voudrais enregistrer un domaine ». La première chose que fait le registraire, c'est qu'il vérifie si le label est libre. Il va voir le registraire, il va lui demander si le label est libre, et à ce moment-là, si c'est libre, il va avoir sa réponse « oui ». C'est bon, c'est libre, c'est disponible, pardon. Mais il y a quand même des petites choses. Il faut obtenir l'URL du registre qui vous permet d'obtenir toutes les revendications qui sont liées à ce label du point de vue de Trademark Clearinghouse. Donc, vous allez avoir un petit document. Ce sont des fichiers statiques qui sont disponibles sur le serveur. Vous pouvez les prendre. Vous devez montrer ceci au registrant. Il doit confirmer que sur la base des informations vues, qu'il souhaite continuer le processus d'enregistrement. Retour au registraire. Le registraire dit, bon, ce registrant veut continuer d'enregistrer son nom de domaine. Et donc, il informe le fait que le registrant a lu cette notification de revendication et qu'il souhaite continuer. Le registre, à ce moment-là, enregistre le domaine et applique le même principe que ce qui a été discuté plus tôt. Il va présenter le fait que le label était enregistré dans TMCH. TMCH ensuite avisera le propriétaire de la marque. Donc voilà les processus qui sont en place. Comment est-ce que le registre sait quelles sont les informations à passer au registraire? Il y a une liste de domaines, de noms de domaines qui sont disponibles dans le processus de revendication, qui peuvent être téléchargés, et donc on peut savoir quels sont les labels qui sont étiquetés et également où on peut retirer le fichier SDM. Donc voilà un petit peu en quoi consistent les deux processus. Voilà. Bien. Alors, les informations, comme l'a expliqué Yann, sont disponibles et je vous encourage à les prendre en compte et à vous assurer de bien les connaître. Par ailleurs, pour ce qui est des revendications Sunrise et de l'infrastructure, nous avons des manuels d'utilisateurs qui sont disponibles pour la communauté. Ils seront disponibles en HTML et en PDF. Il n'y aura pas de duplicata des informations, tout simplement il y aura référence. Donc vous pouvez utiliser les deux de manière coordonnée. Vous avez également une partie questions-réponses qui vous donnera davantage d'informations. Pour ce qui est des questions communes, vous pourrez trouver vos réponses. Et donc de ce point de vue, vous aurez donc ceci de disponible sur le site web. Pour ce qui est des revendications Sunrise, vous avez des documents qui sont disponibles et le reste des documents seront bientôt disponibles. Donc, vous pouvez lire tout ce qui est disponible si besoin est. Toutes questions, vous pouvez nous les adresser directement. Ensuite, également en termes d'assistance que nous fournissons pour ce qui est des revendications Sunrise, l'infrastructure, ce n'est pas uniquement les revendications Sunrise, c'est la totalité de l'infrastructure que vous pouvez utiliser par le biais de TMCH. Et donc, nous avons ICANN, nous avons également Deloitte et nous avons IBM. Et chaque organisme travaille avec ses propres entités. Nous essayons de savoir comment communiquer les uns avec les autres, de bien communiquer les uns avec les autres. Et nous avons toujours nos propres obligations et ICANN s'occupe de toutes les questions d'administration. Deloitte, bien sûr, comme il a déjà été mentionné, s'occupe des marques, des validations, des enregistrements. Et IBM s'occupe des questions techniques relatives à Sunrise et à l'infrastructure des revendications. Encore une fois, tous les bureaux travaillent de manière indépendante, mais nous cherchons à nous synchroniser, nous assurer que lorsque vous adressez votre question au mauvais partie, à la mauvaise partie, nous pouvons vous fournir les informations nécessaires pour obtenir votre réponse. Et nous assurons que tous ces processus soient bien alignés et nous nous informons les uns les autres afin que vous obteniez les meilleures réponses possibles. Ensuite, avec ICANN, nous travaillons à organiser des documents d'accueil pour vous expliquer comment vous enregistrer, comment obtenir soutien, même du côté IBM. Vous savez que IBM est un organisme marginal, donc nous nous assurons de bien vous informer que vous devez vous enregistrer sur un service séparé. Donc tout ceci sera documenté dans les informations d'orientation, d'accueil que nous vous fournissons. Nous fournissons également un portail self-service avec un numéro de téléphone pour le bureau d'assistance. De toute évidence, il est mieux de passer par le portail, mais vous pouvez également nous téléphoner si vous êtes enregistré et nous vous fournirons l'assistance nécessaire autant que possible.
Nous avons essayé de donner autant de flexibilité possible. On sait que ce n'est pas une seule personne qui, dans ces organisations qui va s'occuper de tous les dossier qui ne sera pas disponible 7 sur 7, 24 sur 24. On donne une espèce de données aux organisations jusqu'à 5 points de contact qui peuvent s'enregistrer sur un site web. C'est notre préférence. Si vous avez moins, ça va. Et avec un peu de chance, on ne vous sera pas, on n'aura pas trop de questions pour qu'il y ait 10 ou 20 personnes à enregistrer. Et j'espère, finalement, on va travailler pour s'assurer que vous ayez toutes les informations disponibles pour ne pas chercher sur l'Internet où je peux trouver l'assistance. Donc, on travaille maintenant avec ICANN. On veut s'assurer que l'information disponible est sur des liens et qu'on vous donnera les liens plus tard. Ce n'est pas encore là. Donc, on travaille dur là-dessus, mais on va y arriver et s'assurer que cela présenté de manière favorable pour l'utilisateur, facile à utiliser et où vous pouvez poser vos questions. Donc, le portail pour les services, donc 24 heures sur 24, disponible 24 heures sur 24. Tout l'assistance sera en anglais. Donc, veuillez écrire vos questions en anglais. L'adresse et l'URL pour le portail de services, vous voyez à gauche, à la page de connexion. Si vous vous êtes enregistré sur le site IBM et vous utilisez un nom d'usager et de profil, vous pouvez l'utiliser pour la connexion. Il y aura un écran de service où ça va mettre tous vos credentials, vos informations et on va s'assurer que vos questions sont clairement affichées pour qu'on puisse suivre. Communication. J'ai entendu beaucoup de discussions par le passé de plusieurs sessions. On va offrir des webinaires, des séminaires, web émissions à la communauté et il y aura une partie questions-réponses et une question prédéfinie également et vous pourrez soumettre vos questions. Et on va vous répondre pendant cette session. Si les web émissions doivent changer, nous voulons bien ouvrir cela au débat et on va essayer de vous soutenir tant que possible et que cela soit mis dans le système aussi rapidement que possible. La première émission devrait être en août et vous communiquera très rapidement là-dessus. Surtout le site web ICANN, comme ça vous serait mise à jour. Également hier, j'ai entendu quelques sessions dans lesquelles il y avait des discussions sur les communications entre registres et registraires et IBM. Il y avait une question. Si on pouvait faire des émissions additionnelles, on va revoir ça au cours des prochains jours et revenir peut-être à un supplément additionnel au webinaire et avoir des interactions et que le système fonctionne aussi bien que possible. Et il y a eu des suggestions pour faire des pop-fest, des sessions pop. Nous n'avons pas encore défini comment faire. Et si nous allons le faire, c'est quelque chose que nous devons discuter avec ICANN. Nous allons vraiment tenir compte de cela pour vous soutenir et pour que votre système fonctionne le plus vite possible. Donc, nous allons revenir dès que nous pouvons et nous allons vous informer plus tard. Derek, vous aviez quelque chose à dire? Merci Kevin pour me le rappeler. Oui, les web sessions qui vont venir, nous sommes en train de planifier une émission par semaine. On aimerait faire chaque deux semaines un autre webinaire. On va commencer avec les informations sur les revendications générales et ensuite des sessions de masterclass sur les différents thèmes de Sunrise jusqu'aux revendications et plus tard, comme je l'ai dit auparavant, on peut discuter sur ce que vous voulez voir sur les webinaires. Et si vous n'avez pas de thème à ce moment, on va essayer de trouver des sujets nous-mêmes et répéter sa session. Je peux imaginer que les nouveaux registres vont venir nous rejoindre et ils auront peut-être vouloir des informations que nous avons déjà données auparavant. On essaie d'équilibrer chaque deux semaines la chronologie, le moment, l'heure du webinaire pour que les gens dans les différents fuseaux horaires peuvent au moins participer au webinaire. On ne peut pas, bien sûr, satisfaire tous les fuseaux horaires, mais on peut le faire de notre mieux. Donc, ça peut être le matin très tôt ou bien pendant la journée ou bien plus tard. Vous pouvez participer au webinaire. Merci. Dernier commentaire que j'en ai déjà parlé au sujet des communications. Il y a eu deux éléments au début de la session. La première chose, c'est les sessions interactives pour permettre et des communications bidirectionnelles entre IBM d'un côté et les registraires d'un autre côté. Deuxièmement, ce sont juste des idées, des suggestions pendant la conférence. S'il y a d'autres idées, on les accueille, et tant que c'est faisable et tant que cela ne m'empêche pas le projet, on veut bien promouvoir cela. Et pour le reste de la conférence, si on pouvait passer au guichet de TMCH et poser vos questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Derek. Merci Adrienne Yann. On a couvert beaucoup de thèmes. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Le microphone est à ceux qui veulent parler. Nous allons alterner entre les questions dans la salle et les questions à distance. En imaginant que nous avons beaucoup de questions à distance. Très bien. Donc, Amadeo, allez-y. Voici la première. Merci beaucoup, dit Amadeo. J'ai quelques questions. Premièrement, dit IBM ou de Deloitte, un pour commenter à ICANN et une demande générale pour vous tous. Je commence avec la demande générale. Amadeo, dit madame, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que je pourrais suggérer qu'on limite à une question pour que nous puissions passer toute la file d'attente et poser une question et ensuite vous pouvez reprendre revenir à la file d'attente. Est-ce que ça va, Karen? Oui, je dirais oui, dit Karen. Par rapport à la question Wiki, on parlait de tester et quand le test sera disponible. Certaines choses seront en juillet ou est-ce que vous pouvez clarifier pour les registres et registraires quand tout l'environnement sandbox sera disponible pour testing? Je vous avais mentionné plusieurs choses, mais je n'ai pas eu la conclusion. Donc, l'environnement pour Sunrise complet sera disponible le 31 juillet. Merci, dit Amadeo. Madame pose une question. Il y avait 17 questions dans la file d'attente et ils sont dans l'ordre en fonction des présentations. La première était, est-il possible d'insérer une liste de strings et dans le TMCH et offrir des procédures spéciales pour unlock les noms, pour déverrouiller les noms. Merci pour la question, pour le participant à distance. D'après ce que j'ai compris, la question porte sur est-il possible de créer une procédure ou les indicateurs géographiques ou autre type de choses comme ça peuvent être déposées dans le clearinghouse par rapport à une certaine procédure soit pour bloquer ou enregistrer ces noms. On n'a pas ça pour le moment. Ça n'a pas encore été discuté comme fonctionnalité pour le TMCH. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être analyser pour l'avenir. Merci. Je vais poser la prochaine question. Elle est de Tobias. Quand est-ce que Trademark plus 50 sera prêt? Trademark plus 50. Au début, j'avais mentionné que nous n'avons pas les dates spécifiques, mais nous aurons cela prêt. Cela devrait être prêt avant que les registres offrent une période de revendication. Je m'appelle Yoshimura Ekam, de Konak. Konak est opéré par ICANN et le système de TMCH est opéré par ICANN. Ce sont les seules organisations, les seules organisations qui peuvent enregistrer sur les marques sur TMCH qu'ils font. On est confus. On ne sait pas si c'est vrai. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Vous êtes informé? Merci. Donc, pour le moment, comme je l'ai décrit au début de la session, le TMCH a quelques fonctions. L'une de ses fonctions est la fonction de validation sur comment les marques de commerce sont fournies et sont incluées dans la base de données. Notre fournisseur de vérification est Deloitte, l'équipe que vous voyez ici. Nous n'avons pas encore approuvé d'autres fournisseurs de validation pour le TMCH, pour le clearinghouse maintenant. Rubens de .pr, question pour Deloitte. Deloitte a mentionné dans la présentation que les procédures UGLP des fournisseurs accrédités par ICANN serait pour Trademark Plus 50. J'aimerais demander si cela va au CCTLD, aux disputes de CCTLD qui sont faites parfois par des fournisseurs qui sont également des fournisseurs de résolution de disputes ICANN. Merci Ruben. Je vais répondre moi-même. La question était la suivante. En termes de documentation d'un label comme était déjà abusé en fonction des décisions, des procédures de décision décisionnelles, cela va au UDRP qui est applicable à tous les noms dans l'espace des nouveaux GTLD et aux décisions qui ont été émises par un tribunal dans une juridiction particulière. Nous avons étendu cela au-delà de cela, au processus ou CCTLD qui sont similaires pour l'arbitrage de ce type de dispute. Il y a, d'après ce que j'ai compris, plusieurs, et nous devrions analyser de plus près quelle est la portée de tout cela, de tous ces mécanismes pour savoir si il serait approprié pour l'espace des nouveaux GTLD et pour l'étiquette abusée. La prochaine, c'est de Connie Hone à distance. Question numéro 1. Selon les spécifications 7 du guide du candidat, tous les nouveaux registres GTLD doivent mettre sur pied un working arrangement avec la TMCH en fournissant l'enregistrement pour les noms de domaine de marque pendant les périodes Sunrise. Pour les registres qui opèrent les closed TLDs, qui ne vont pas offrir de services d'enregistrement public et qui n'enregistrent des domaines que pendant la période Sunrise pour leur propre usage, est-ce qu'ils doivent respecter cette entente avec la TMCH? Merci. Pour le moment, la spécification 7 dans l'entente registre est applicable à tous les registres TLD qui signent une entente. Les mécanismes de protection de droits, Sunrise et de revendication marques ont été approuvés par le développement du programme des nouveaux GTLD comme des minima que nous voulons assurer en ensemble et qui ont été approuvés par tout le monde. Donc, il n'y a pour le moment aucun mécanisme pour exempter personne. Cela s'applique de manière uniforme. Stéphanie Dijno de Fairwinds Partners. On a vu des inconsistances dans le nombre d'opportunités qu'un détenteur, un agent a eu pour corriger ses documents avant qu'il doive soumettre celui-ci et payer la prime et la contribution. D'après ce que nous avons vu de Deloitte, il y a des contradictions également. Est-ce que vous avez une idée finale de nombreuses fois que cela peut se produire avant que le dossier puisse être soumis? Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir d'inconsistance. C'est pas juste. Si cela se produit, alors nous allons analyser cela. Les directives, c'est un processus de correction, mais nous essayons d'aider tout le monde tant que nous pouvons. Donc, dans le cas où nous recevions un ticket de service clientèle avec l'agent CMCH qui dit, où nous avons le détenteur de marque nous dit, est-ce que vous pouvez nous aider? On essaie de promouvoir autant que possible. Et pour les dossiers trademark qui sont marqués non valables, on va les contacter et les agents trademark pour les aider avant que septembre arrive, parce qu'on pense que nous aurons beaucoup de travail en septembre et on veut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et comment ils peuvent corriger leur information et que cela se fasse bien. Ok, Amadeo, the Core Association. C'est pour Vicky. J'ai la même rumeur que le TMCH n'acceptait pas l'AGM, mais l'autre rumeur que j'ai entendue est c'est que malheureusement, TMCH est invisible dans certains domaines comme le Moyen-Orient pour le script arabe, pas le script latin, peut-être avec l'exception de Chine et le Japon, presque, il n'y a pas de script latin. Donc, non seulement parce que des choses naturelles, parce que nous avons 3 IDNTLD, mais en raison de la nature de la liste de priorités ICANN, ça va commencer avec ce script, que vous ayez des statistiques précises ou le nombre de Urdu, Farsi, etc. Est-ce que ces scripts sont dans le TMCH ou au cyrillique, en cyrillique 20, russe, en cyrillique? La question est une demande à vous et à ICANN pour aider à organiser quelque chose, pour conscientiser les choses dans ces domaines. Ce sont les premiers à venir. Ils seront là en septembre. Pas en septembre 2015, d'accord? Donc on doit faire quelque chose ici. Merci. Nous sommes conscients de cela. Donc, nous traduisons les directives en arabe et dans d'autres langues également. Nous avons notre site web fonctionnel pour permettre plusieurs langues et on travaille avec une agence de relations publiques qui a des connexions à travers le monde également pour publier des communiqués de presse, des nouvelles d'articles dans différentes régions, surtout pour les IDN, pour que les gens sachent ce qui se passe. Mais bien sûr, nous luttons contre le fait que si on peut conscientiser le TMCH dans ces régions, ils ne connaissent pas le nouveau programme des nouveaux GTLD. Donc, on sait qu'on devra commencer dès faire table rase et on va faire cela au cours des prochaines semaines. Nous avons également identifié quelques groupes ou individus avec qui nous aimerions travailler dans des régions comme en Israël, au Moyen-Orient, en Chine. Pour être honnête, nous allons aussi vite que possible. C'est qu'il y avait beaucoup de choses sur la table à faire et nous n'allons pas prêter davantage d'attention pour l'Afrique du Sud cette semaine. Nous avons notre agence relations publiques qui se concentre sur la presse. On a 1 ou 2 articles dans la presse locale pour créer au moins quelques remous. Le monde est grand, donc c'est difficile de faire partout au même rythme, mais nous allons investir davantage au cours des 2 à 3 mois dans les marchés émergents. Une autre question de la participation à distance de Connie Han. Beaucoup de trademarks ont des scripts mixtes en retirant ces marques, en les enregistrant par script, peuvent rendre si insignificatif le label trademark. Le TMCH a dit que les MixScript trademark script mix, on ne peut pas faire de protection. Est-ce que c'est une technique, point technique ou qu'on ne peut pas modifier? Donc, pour que les script mix soient plus une valeur pour l'enregistre dans le registre des noms de domaine. Donc, la section 5, on mentionne que tous les points dans les labels soient pris dans le même script, dans un Unicode, dans le standard 24. Donc, voilà la réponse. Peut-être que vous voulez lire cette directive, la section 5, la réponse y est mentionnée. Merci Gustavo, c'est Karen. La réponse est dans le DNS, la directive DNS ou les exigences qui sont mises en place pour le nom de domaine, les labels de second domaine de qui ont une interdiction sur les script mix dans le même label. Donc, même s'il y a des marques valables qui contiennent différents scripts, ils ne se traduiraient pas en fonction. Transférer la marque dans un nom de domaine, cela ne créerait pas un nom de domaine illégal. Dans ce cas, il n'y a rien à protéger puisque aucun registrant ne pourrait pas enregistrer ce nom non plus.
La prochaine question vient de KOM. Pour éviter les erreurs, quelques applications de EGN, d'IDN et GTLD, pour ce qui s'agit des enregistrements ASCII de premier et deuxième niveau, comment est-ce que cela se traduit au niveau du processus de marque déposée et comment résout-on ce conflit? Si j'ai compris, ça a à voir avec une proposition que l'enregistrement d'un nom existant dans le TLD pourrait avoir la priorité en termes d'enregistrement pour un nouveau TLD. Ce n'est pas quelque chose qui est couvert par le guide en ce moment actuellement. Du moins, à mon avis, je ne pense pas que ce soit couvert. Nous n'avons pas encore discuté cela, de la façon avec que cela pourrait fonctionner, disons. Je pense que c'est quelque chose que nous devons nous pouvons discuter et enquêter là-dessus pour vous donner une réponse correcte. Alex, j'opère un couple de TLD. Quelles sont les requêtes contractuelles? Est-ce que nos applicants, nos demandes doivent signer un contrat avant de faire le testing? Et aussi, pour Gustavo, est-ce que les versions que l'on voit maintenant sont finales ou est-ce qu'il va y avoir des changements? Dans les deux cas, ce sont des problèmes de délai. Donc, enfin, pour clarifier votre première question, quelles sont les exigences en place au niveau contractuel pour le testing, pour les tests? La personne au micro? Oui, le panel. Le contrat, les accords contractuels sont entre le registre ICANN et le registre aura le. En tant qu'opérateur, je ne peux pas exister avant qu'il y ait un contrat de signé. Le panel de vous aurez accès et cela sera fourni par le registre. L'accès sera fourni par le registre. Et encore au micro, le panel. Quand il s'agit de la version préliminaire, nous avons beaucoup de suivi de la communauté. Je pense que la version préliminaire est stable. Nous pourrons l'utiliser pour mettre en place une résolution. Nous avons, si nous trouvons des erreurs, nous les adresserons. Une fois que nous avons, dans les 6 mois après, une fois que nous mettons d'accord, nous prendrons 6 mois pour mettre tout cela en application. Jean Berryhill, au micro. Si je suis un détenteur de marque déposée et que je n'ai pas fait attention, que je me rends compte dans quelques mois que les nouveaux TLD ont été lancés, quelqu'un qui n'est pas autorisé, une tierce partie, a soumis mes informations de marque déposée au clearinghouse pour pouvoir qualifier à Sunrise. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est en place pour moi en tant que détenteur de marque déposée de retirer donc des informations non autorisées du clearinghouse de marque déposée? Le panel ne devrait pas avoir, ça ne devrait pas être le cas. Si moi j'ai une adresse email, je peux signer un papier, je peux entrer mes données dans le clearinghouse. Le panel, non, ce n'est pas facile. Nous faisons beaucoup de validations, de vérifications sur l'authenticité de la personne qui soumet les données. Et nous faisons beaucoup, beaucoup de vérifications. Nous sommes rentrés en détail dans d'autres sessions précédentes. Je pense que ça ne s'est jamais passé. Je pense qu'il y a un processus en place pour disputer une décision qui aurait été prise par le clearinghouse. C'est correct. Vous pouvez aller au clearinghouse et disputer une décision que nous avons prise. La question, bien sûr, comment allez-vous avoir connaissance de cela si vous ne faites pas partie de clearinghouse? Si vous êtes clearinghouse et que vous avez une marque déposée similaire, vous n'aurez pas immédiatement, si vous n'êtes pas dans le clearinghouse de marque déposée, vous aurez besoin de procédures externes pour vous en rendre compte. Et ce n'est pas ce que nous devons, ce qu'on nous demande de faire. La personne au micro, je ne savais pas comment l'information était vérifiée. Si je peux continuer pour l'ORECA, Karen Lenz, il faut aussi fournir l'adresse email des détenteurs. Nous vérifions cela. Nous avons des critères que nous suivons pour nous assurer que le détenteur a fourni une autorisation à l'agent de marque déposée pour soumettre cette marque déposée. Nous avons une autre personne au panel. Nous n'avons pas pu identifier si nous ne pouvions pas faire l'identification entre le détenteur et l'adresse email, nous recherchons plus d'informations, nous faisons plus de vérifications. Si nous voyons, par exemple, si quelqu'un essaie de enregistrer puis que ce n'est pas un agent, nous arrêtons le processus tout de suite. Nous faisons nos vérifications. Les éléments additionnels qui pourraient être en place où ils pourraient vérifier les identités. Ce n'est pas une requête que nous devons faire maintenant, mais nous voulons mettre un système en place parce que si nous avons des doutes, nous pourrions faire des vérifications additionnelles, supplémentaires. Donc, au micro, il y a donc des vérifications qui seront en place. On peut voir que c'est pas un agent à travers tel ou tel réseau que c'est pas le bon agent. Gustavo, ce n'est pas la première chose que nous faisons. Chaque personne qui vient, nous faisons une vérification vis-à-vis d'une liste. Si nous trouvons une correspondance, nous savons nous ne faisons pas une vérification automatique. Au micro. Une question à distance, d'un participant à distance de Connie Hahn. Pouvez-vous spécifier qui doit certifier les traductions de façon à ce que les traductions soient acceptées par le clearinghouse de marque déposée? C'est une traduction qui doit être faite par des traducteurs certifiés, puisque nous travaillons avec des ressources locales. Nous savons que ces gens-là connaissent les langues appropriées. Nous acceptons les traductions de la. Je pense que les agents, comme les détenteurs, peuvent fournir des traductions. Nous pouvons faire correspondre les traductions avec les gens, puisque nous connaissons. La réponse est que ça ne doit pas être positivement certifié. Nous pensons qu'il y a des ressources. Nous savons que les gens qui parlent cette langue sont les seuls qui puissent faire la traduction. Nous avons mis un système en place et nous pensons que ce n'est pas une bonne traduction. Nous avons donc les ressources pour vérifier. Ainsi, nous demanderons plus de détails. Et on dit, pourquoi est-ce que c'est important ? N'importe quelle description, par exemple pour les biens et les services, doit être en correspondance avec les documents supplémentaires et additionnels que nous avons. Si un agent ou une partie, quelle qu'elle soit, veuille inclure une description en anglais, une traduction en anglais, parce qu'ils connaissent que potentiellement les registres sont peut-être, ou les registraires ne sont peut-être pas forcément capables de faire ces traductions, alors bien sûr, nous n'allons pas être aussi stricts pour que cette traduction soit la même. Le plus important pour le raccord, c'est que dans le script, le langage doit être le même, que la correspondance soit faite entre le renseignement donné et ceux qui sont sur le certificat. Une autre question à distance de Christopher. Pour la preuve d'utilisation être une exacte correspondance avec, par exemple, les graphiques, ou est-ce que cela doit montrer seulement les caractères et les lettres dans la marque déposée? Il y a, dans la preuve d'utilisation, parce que nous savons, dans certains cas, il n'est pas possible de fournir une marque figurative, par exemple, parce que ce n'est pas toujours possible, il n'y a pas toujours une brochure ou la marque déposée mentionnée. Dans certains cas, nous acceptons cela, mais nous regardons en premier si nous pouvons trouver une marque figurative de la marque déposée. Une autre question de Lucy. Est-ce comment Deloitte sait qu'une décision n'a pas été fait appel pour une décision? Quand vous parliez des cas juridiques, comment est-ce que Deloitte sait qu'une décision, on n'a pas fait appel sur une certaine décision? Lorraine, nous ne savons pas, nous faisons les vérifications sur la base des informations qui nous sont données. Si la troisième personne n'a pas, si cette décision n'a pas été faite, si on n'a pas fait appel à cette décision, il peut y avoir une dispute qu'il veut être déposée, basée sur, même sur l'appel qui a été fait. Nous faisons bien sûr des vérifications sur la documentation. Si cela vient, nous reconnaîtrons les résultats ou les décisions d'un tribunal si besoin. Lloyd d'Allemagne, une question pour une vérification pour les plus 5 ans. Si mon client a enregistré sa marque déposée dans 10 pays différents, est-ce qu'il peut faire une demande pour plus 500, 10 fois plus 50? Si vous aviez enregistré cette marque déposée dans différentes juridictions, vous pouvez la soumettre. Oui, c'est une possibilité. Alex Meyerhofer, point AT. Ma question pour le test d'intégration. Est-ce que je dois répéter les tests pour chaque TLD que j'opère ou est-ce que je dois en passer un et cela suffit et je serai... Vous n'avez pas à le faire répéter encore une fois, encore et encore. Si vous avez commencé le processus, vous êtes prête à partir, prête à démarrer. Les deux prochaines questions à distance. Connie Hahn, est-ce que l'environnement OTE est prête? Les agents de Clearinghouse n'ont pas pu accéder encore. L'environnement OTNE est maintenant disponible, dit Lorraine. Nous avons plusieurs utilisateurs sur le système. S'il y a quelque chose ou une raison pour laquelle quelqu'un ne puisse pas connecter, Ils doivent créer un ticket de client, de service client, et nous adresserons cela immédiatement. Une autre question à distance de Chen de Point Asie. Est-ce que la date butoir, c'est le 8 août ou est-ce que cela se termine en septembre cette année? Lorraine, cela se termine quand les premiers GTLD seront lancés à Sunrise. La prochaine question de Thomas Arlen. Qui recevra une notification une fois que le DN est enregistré dans le Sunrise? Lorraine, les avis sont envoyés au détenteur ou à l'agent. Cela dépend bien sûr quel est le contrat. Si c'est un agent, les agents eux-mêmes devront envoyer au détenteur. Si c'est le détenteur qui fait la demande, il recevra l'avis de notre part directement. Jumping, propos de la discussion sur les scripts mélangés, mixed script, c'est dans le guide, il est vrai que cela. Pardon, je ne comprends pas ce qu'il dit, je suis désolée. Mais c'est écrit dans le guide que les choses doivent être mises en place durant la période à Cannes. Il y a des exceptions au règlement et les règlements incluent des mixed scripts. Vous devez regarder votre mise en application, surtout en ce qui s'agit des mixed scripts, des scripts mélangés, surtout quand il s'agit du chinois ou du japonais. Merci, dit Lorraine. Oui, il y a des exceptions dans les règlements. Je parlais en cas général, mais vous avez raison, il y a des exceptions spécifiques. Il y a des cas où il y a des exceptions qui sont permises. Il y a des règlements établis, bien sûr. Nous avons des règlements IDN que nous avons donnés à nos partenaires comme IBM et comme pour les IDN, et bien sûr, cela sera pris cas par cas. Il y a 5 questions à distance. La première, combien de registraires mettent en application ou planifient de mettre en application le processus de dispute, de plainte. Combien de registraires, Lorraine au micro, combien de registraires, je ne sais pas. Les registraires qui souhaitent soutenir les nouveaux GTLD et qui veulent fournir des services aux registrants et qui veulent s'enregistrer durant la période avancée des TLD seraient donc intéressés par cela. La prochaine question, Benny Samuelson. Question, comme on l'a dit hier, les marques déposées 50 plus sera délai, il y aura un délai. Comment est-ce que cela va affecter les premiers TLD qui vont être lancés avec Sunrise? Vous voulez bien répéter, dit Lorraine. Comme on l'a dit hier, les TM 50 plus seront retardés. Comment cela va-t-il affecter les premiers TLD qui doivent être live avec Sunrise? Lorraine, il n'y aura pas de délai, ça ne va pas retarder le lancement avec Sunrise. Les plus 50 s'appliquent seulement au processus de plainte de marque déposée, pas à Sunrise. Donc, cela ne devrait pas affecter quoi que ce soit, il ne devrait pas avoir de retard. Et de toute façon, ce n'est pas notre intention que la mise en application de cette fonction soit retardée dans le lancement des TLD. Encore une fois, question, est-ce qu'on peut transférer les clients, les cas clients entre IBM, Deloitte et ICAM? Je ne comprends pas le client. Les cas clients. Lorraine, ce que Audrey décrivait en tant que service client, disons, bureau service client, si un utilisateur a une question, peut diriger ses questions envers un de nous trois. Nous coordonnons entre nous pour nous assurer que nous couvrons toutes les questions, au moins qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de répondre à une question. Nous avons un mécanisme qui est en place. Nous voulons assurer que la question est posée à la bonne personne, que cette question ne soit pas perdue ou abandonnée, que nous ayons des chaînes de communication qui sont mises en place pour que cette question aille au bon endroit. Le panel, dans chaque cas, les questions seront dirigées vers un service client pour éviter. Nous essayerons de communiquer avec l'utilisateur pour que cette question soit dirigée ou cette réponse soit dirigée correctement. Nous essayons de nous assurer que nous avons la bonne information au bon moment et que le client reçoit le soutien nécessaire. Merci. Une autre question de Thomas Lenz. Serait-il besoin de mettre en place un centre de service client où les trois parties travailleraient ensemble pour le bénéfice de leurs clients? Le panel, oui, si c'était possible, nous aurions fait cela. Nous essayons de mettre les choses en place le plus facilement, le plus vite possible. Ce n'est pas le cas. Nous allons essayer d'utiliser des choses qui sont des coûts raisonnables. Nous essayons d'aligner les informations le plus vite possible et le mieux possible en ce moment. C'est tout ce que j'ai, moi, comme question à distance, dit la personne au micro. Deux questions et ensuite nous allons fermer pour pouvoir nous apprêter pour la prochaine session. Cette question est pour Lucas et c'est une question pour Karen. Quelque chose peut arrêter un opérateur de registre de charger un coût de 1 million de dollars durant le TM Sunrise et mettre en place un autre Sunrise avec quelqu'un d'autre qui pourrait charger 10 dollars si la pratique de TMC serait inutile, que il y ait des descriptions. Pardon, Karen, il n'y a pas d'accord avec avec les registres, il n'y a pas de régulation au niveau des coûts entre les registres et ACAN. Les registres, nous attendons qu'ils doivent évaluer les coûts vis-à-vis des marchés qu'ils ciblent sur leurs services. Mais il n'y a pas de stipulation de la part d'ACAN sur ce qui est du coût. La prochaine question de Angus Richardson. Est-ce que l'on pourra avoir plus de couleurs durant les priorisations des records de marques déposées par GTLD régionaux? La question c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir plus de quoi? Plus de couleurs durant l'approche de priorité des records de marques déposées par les GTLD régionaux. Karen, c'était un point que j'avais fait durant quand on parlait des requêtes de. Il y avait des intérêts de certains demandeurs qui avaient une focalisation d'un point de vue plus géographique ou, disons, régional, pour pouvoir allouer des noms de domaines dans le Sunrise, dans un ordre de priorité et en accordance avec ce qu'il y avait de plus près de la région ou quelque chose qui se rapprochait de plus à la région. La clearinghouse, le processus de vérification clearinghouse fournit la vérification que cette entité a rencontré les exigences de Sunrise. Il pourrait y avoir plusieurs, et ça, cela pourrait arriver n'importe où, il y aura des détenteurs qui voudraient le même nom de domaine. Donc, dans ce cas, tous les registres doivent avoir des processus d'allocation et ainsi, la proposition était de se situer autour de la capacité des opérateurs de mettre en place des priorités dans l'allocation en relation avec le TLD en question. Oui, d'accord. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir passé 2 heures de déjeuner avec nous. La prochaine session va commencer ici et dans 10 minutes. Merci.